Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec l'estivante Sophie Avon de Sud-Ouest et les Dupont-Moretti de la critique. J'ai nommé Michel Simon de Positif, Eric Neuhoff du Figaro, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles pour parler des films Dans le désordre de Pascal Thomas, Valeria Bruni Tedeschi, Julie Bertuccelli, Yorgos Lanthimos, Félix von Groningen, Antoine Rimbaud et Barry Jenkins. Dans le courrier de la semaine, eh bien, les auditeurs ne sont pas tendres avec La Mule de Clint Eastwood pour Michel Combebelin. C'est un film de vioc, autocomplaisant, poussif, égocentré, roublard, mollasson, larmoyant et pour finir, pas sympathique pour Barbara Trimbach de Verrières-le-Buisson. C'est un mélo sirupeux. Pour Christophe Bise, eh bien, c'est un film adapté pourtant d'une histoire vraie, mais où rien ne sonne juste. Et le message est plus tartignol que celui du plus mauvais Spielberg. Assunta Boyer, ben elle s'énerve contre nous. On n'y croit pas à l'histoire de ce vieil égoïste. La fin est nulle. Eastwood m'a laissé de glace. Vous êtes pathétique. Ça, c'est pour nous. Hein. Alice Adrien, qui a 20 ans, nous dit que le dernier Eastwood qu'elle a trouvé bon remonte à avant ma naissance. C'était Madison en 1995. Seul Patrice Picht de Toulouse trouve qu'à bientôt 89 ans, Eastwood est au sommet de son art. Quel plaisir de revoir Eastwood acteur avec son visage paysage où la vie semble s'être imprimée ride par ride. Non mais Michel, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le courrier.
Ce qui
c'est
est formidable,
pas grave.
C'est que le public est tout à fait d'accord avec la critique puisque c'est un énorme succès commercial. Donc je félicite le public de venir en masse voir ce film que nous avons recommandé.
Sois bon joueur. Pas plus tendre les auditeurs avec la double vie d'Olivier Assayas. Nat Strem, au secours, c'est la première fois que j'ai eu envie de sortir de la salle après 30 minutes. Pierre Girard est d'accord avec Pierre Murat, c'est un navet. Binoche est nul, comme d'habitude. Macaigne fait toujours le même rôle sans se fatiguer. La fin arrive là, comme un cheveu sur la soupe. Arrêtez de nous prendre pour des idiots, ça c'est nous, en nous parlant de second degré. Cathy Marnier de Neugent dénonce les dialogues confondants de ridicules qui font penser à un sketch des Inconnus. Robinson et Malena trouvent le film d'Assayas caricatural de vacuité et de fausse intelligence. Pour Arnaud Beaumont de Paris, ce film d'Assayas est très bavard. Et il n'est rien d'autre qu'une conférence interminable et ennuyeuse d'un milieu qui se regarde le nombril. Pour Isabelle Carrès, le tout petit monde parisien de l'édition s'écoute. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon trouve double vie, verbeux, agaçant et insignifiant avec une fin fumeuse. Anne-Marie Pain de Bois-Colombe avoue s'être endormie pendant les dialogues. Et puis ça n'a rien de Woody Allen, comme vous l'avez dit. Personne ne rit dans la salle. Pourtant, Vincent Macaigne et Nora Hamzaoui sont irrésistibles. Et accablée, Marianne Briand a pensé à la maxime du jeune fils d'une amie à elle qui lui dit toujours « Le cinéma français, c'est des gens qui ont des rhumes dans 100 mètres carrés ». Voilà. Message personnel sur Green Book d'une certaine Anne-Aude Higier qui nous dit « Cher Jérôme, j'ai l'honneur de vous demander la main de Pierre Murat ». Il n'est pas là, mais on va lui dire « Merci à lui d'avoir dit de Green Book ». Ce qu'il est vraiment, un film binaire, manichéen, idiot, et dont la plus profonde pensée philosophique est, comme l'a dit Monsieur Murat, le racisme, c'est mal. Enfin, une pépite retrouvée par Nicolas Tess. On a quand même des auditeurs qui sont de vrais chercheurs. Il a écouté le début de l'émission du 26 mai 1974 grâce à Lina. Et qu'est-ce qu'il entend ? Qu'un certain Éric Nohoff de Cahors, ville où le critique était lycéen, demande par courrier à François-Régis Bastide s'il n'est pas possible d'enregistrer des émissions sur cassette. Donc, il écoutait bien Le Masque de façon assidue en 1974. C'est toi, Éric ?
Oui, oui, j'avoue. Je voulais même le réécouter, vous voyez. J'avais inventé le podcast dans les années 70.
Donc, c'est vrai.
C'est drôle que cette personne ait retrouvé ça.
Bon, est-ce que je vous pose la question de savoir si vous avez vu le... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ou pas, non ?
Vous l'avez... Enfin, moi, je l'ai vu, personnellement.
Vu de... C'est des chiffres hallucinants. Les... Ouais. Le premier a atteint quand même 12,5 millions. Donc, je n'ai pas voulu l'inscrire, mais juste avoir votre avis et de Philippe de Chevron. Et celui-là est déjà en passe de...
Oui, mais le premier avait vraiment marché sur la durée. Là, je pense que le démarrage est très fort parce que le premier avait fédéré. Je n'ai pas l'impression que le film entraîne... un même enthousiasme, il suscite le même phénomène. Le premier, moi, je le trouvais...
Enfin, les chiffres sont
il a démarré encore plus fort parce que ce film bénéficie de la puissance de la marque, mais je suis pas sûr que le bouche à oreille soit très bon. Moi, le film, je le trouve nul, d'une nullité qui est peut-être moins agressive que le premier, qui était vraiment un film assez dégoûtant sur l'idée que si tout le monde est également servi en racisme, ça neutralise le racisme. Et c'était vraiment un spectacle de la valerie et d'une complaisance inouïe. Là, le film est presque inoffensif, comme s'il avait intégré des éléments de politiquement correct. Ouais. Donc, il se repose sur des situations extrêmement mal écrites. Donc, c'est un vaudeville extrêmement poussif, où vraiment Christian Clavier est pathétique. Enfin, je pense que potentiellement, il y a 30 ans, c'était un acteur comique génial dans les premiers films Splendide, et que c'est vraiment très très triste de le voir à ce degré de clownerie absolument pas inspiré. Voilà.
Donc tu sauves Chantal.
Je trouve ça très mauvais.
Tu sauves Chantal Lobby en gros. Éric.
Je n'avais pas pu voir le premier jusqu'à la fin, et là je n'ai pas réussi à regarder la bande-annonce en entier.
Michel.
Non, on a vu depuis un an et demi, des comédies populaires de vraiment très réussies. Je pense au Grand Bain, je pense au Sens de la Fête ou le Salvadori en liberté. Et là, on retombe évidemment.
J'ai eu peur que tu parles des Tuches 3.
Non, et là, on retombe effectivement avec des Tuches, les Ch'tis, etc. Dans le degré zéro, il n'y a pas de cinéma. Et alors, ce qui est encore plus grave, c'est que c'est un film qui a l'air d'être anti-raciste. Alors, je trouve que c'est un film profondément raciste, ce film très déplaisant.
Sophie a refusé de le voir.
Je ne sais pas que j'ai refusé, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu.
Allez, on commence cette émission avec My Beautiful Boy, le film américain du Belge Félix von Groningen, dont on avait plutôt aimé Alabama Monroe, qui était un film en tout cas intéressant. Là, c'est avec Steve Carell et votre chouchou, Timothée Chalamet, l'acteur franco-américain de 23 ans, révélé, je vous le rappelle, par... Call Me By Your Name, qui joue ici un camé, un acrose en fait, qui désespère son père. Le père, c'est David Sheff, joué par Steve Carell, journaliste de Rolling Stone, qui tombe de haut quand il découvre que son fils Nicolas, promis un bel avenir, se drogue depuis ses 12 ans. David qui va tout faire pour sauver Nick. Il faut savoir que, comme maintenant 90% des films s'est inspiré d'une histoire vraie, là, le père et le fils ont chacun écrit un livre sur cette histoire, et Van Groningen a mêlé les deux pour écrire son mélo. Eric.
C'est même pas un mélo.
C'est un mélo.
Oui, mais enfin, c'est pas émouvant du tout. C'est un film beaucoup trop joli pour être honnête, même si c'est tiré d'une histoire vraie. Tout est attendu. Le père est un bon père. Le fils n'est pas un mauvais gamin. Il ment comme tous les adolescents. Bon, il se drogue un peu. C'est ça qui est embêtant. Alors, le père le prend mal. Mais plus qu'un peu. Mais c'est toute une série de situations qui se répètent pendant toute la durée. Il retombe dans la drogue. Son père va le chercher. Il se réconcilie. Il se refâche. Il disparaît. L'école s'inquiète. Le père est obligé d'aller voir son ex-femme qui n'habite pas dans la même ville que lui. Et tout est très attendu. C'est un peu le genre de film comme en faisait André Cayatte, là, les films à thème.
C'était meilleur. C'était meilleur.
Kayat était meilleur.
Bah, bien sûr, c'est bien meilleur.
Je suis d'accord.
Ah non, mais moi,
et là, c'est un film assez dégoulinant, sirupeux, avec de la musique de Neil Young, de John Lennon. Je vois pas tellement l'intérêt de ce truc. Et Timothée Chalamet, je pense qu'on est en train de découvrir la nouvelle fausse valeur du cinéma américain.
Dans Call Me, il était formidable.
Je vais vous dire un truc, Louis Garrel est meilleur.
Mais je crois que tu aimes beaucoup Louis Garrel maintenant.
Oui, oui, c'est vrai.
Sophie, t'es pas d'accord ?
Oui, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu dis, Eric, ça recommence, ça tombe, ça. C'est exactement ça la drogue. Hein. C'est tu trébuches, tu tombes, tu rechutes, et ce qui est beau dans le film. Et Dieu sait que moi j'avais
pas. Mais le cinéma, c'est pas ça.
Attends, moi j'avais pas du tout aimé Alabama Monroe là, qui Monroe. Était sur un sujet. C'était quoi?
Alabama Monroe.
Monroe, qui était sur finalement une toile de fond assez voisine, puisque c'était la chute comme ça d'un enfant. Et je trouvais que c'était mélo, je trouvais que c'était vraiment pas bon. Là, je trouve qu'il a au contraire, grâce à cette mise en scène, qui immédiatement te montre à quel point la vie est fragile, qui part en lambeaux, qui se déchiquette comme ça, qui part vraiment en fragments, avec ces images qui se chassent les unes les autres, c'est vraiment très beau parce que ça colle exactement à la maladie de ce gamin. Et je trouve que Steve Carell, en père, qui est pas du tout... Enfin, il y a quelques semaines, il y a eu Ben Is Back sur un sujet similaire, avec Julia Roberts. Et je trouve que justement là, ce film était comme tu dis, c'est-à-dire que c'était l'idée qu'on se fait d'une maladie, d'une mère courage, l'idée qu'on se fait de cette situation, de cette maladie, etc. Tout était bien fait, mais tellement attendu, etc. Là, c'est l'inverse. Il est sans arrêt surprenant parce que justement, il mêle le passé et le présent, parce que il rentre par une toute autre voie dans l'émotion. Et je trouve que le film, au contraire, est absolument poignant.
Michel.
Non, je trouve que c'est un film, on pourrait dire signe particulier néant. C'est un film complètement impersonnel. Très répétitif, effectivement. Alors, peut-être que la drogue, c'est ça, j'en sais rien.
Oui, c'est ça.
J'ai pas expérimenté comme ce film.
Oh, il n'y a pas besoin d'expérimenter pour le savoir. Mais, je suis désolé.
Mais en tout cas, il y a une différence entre la vie et le cinéma, même si c'est tiré d'une histoire vraie. C'est que, au cinéma, c'est absolument pas dramatique. C'est un film édifiant, sentimental, larmoyant. Et puis, moi, j'attends de voir Timothée Chalamet dirigé par un grand metteur en scène. Il a tourné dans le dernier Woody Allen, qui apparemment ne sortira jamais.
Il sortira jamais.
Grâce à Timothée Chalamet, qui a accablé de façon scandaleuse son metteur en scène.
Si.
Il a dit qu'il rendait son argent pour les bonnes œuvres, etc. Tellement il était indigné.
C'est pas accablé,
tellement il était indigné, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de dossier Woody Allen. On sait très bien que Chalamet, quand il a accepté le contrat avec Woody Allen, espérait avoir un Oscar ou quelque chose comme ça. Et il savait tout, puisque Woody Allen, ça fait 20 ans qu'on sait tout. Donc, monsieur Timothée Chalamet, j'attends, il a peut-être un grand talent, mais j'attends qu'il soit dirigé par un grand metteur en scène et qu'il contribue à faire sortir le film de Woody Allen.
Jean-Marc.
Moi, je trouve que quand même Timothée Chalamet est génial dans le film. Je trouve que c'est vraiment un acteur passionnant. Et si le film est regardable, c'est vraiment que grâce à lui. Je trouve qu'il y a, alors qu'il a, je crois, maintenant 23 ans, il y a quelque chose comme une adolescence qui ne veut pas mourir chez lui, que c'est tout, vraiment... toujours un être inachevé, comme s'il y avait quelque chose d'incomplet et qui est totalement bouleversant. Et je pense qu'il arrive à exprimer des fêlures de ce personnage, alors que tout le reste, le scénario, la mise en scène, c'est vraiment du travail de climatisation. On a l'impression d'entrer dans un appartement où la température est parfaitement réglée. Dès que c'est un peu trop violent, on ajoute un peu de froid, un peu de chaud, on fait démarrer un standard de Neil Young, de Cocteau Twin, là, pour que ce soit jamais, jamais ingrat. Effectivement, c'est très répétitif, l'addiction. Sauf que le scénario, justement, ne joue pas du tout l'ingratitude de cette répétition, et essaie au contraire de tout rendre... Il y a un effet cajoline de tous les plans, où c'est toujours très parfumé, très doux, très...
C'est une drogue.
Voilà.
Alors, c'est pas même film.
Mais je trouve que Timothée Chalamet est un acteur génial.
My Beautiful Boy, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non, dans le public. La favorite du grec Yorgos Lanthimos, prix du scénario à Cannes il y a 2 ans pour Mise à mort du cerf sacré, qui n'était pas léger, léger. Là, c'est avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz. On est au début du XVIIIe siècle. À la cour de Anne d'Angleterre, c'est Olivia Colman, dernière monarque de la maison Stuart, dont la santé est fragile et le caractère instable, le mot est faible. C'est son amie Lady Sarah, Rachel Weisz, qui gouverne le pays à sa place. Arrive alors une nouvelle servante, Abigail Hill, c'est Emma Stone, dont Lady Sarah croit faire son alliée, mais qui va devenir, c'est tout le problème, la favorite de la reine. C'est donc la guerre des femmes à la cour d'Angleterre. Mes versions boursouflées, vous avez, je crois, aimé ça les uns et les autres, Sophie.
Jusqu'à présent, Lanthimos, moi, j'arrivais pas du tout à aimer son cinéma. Je trouvais il y avait une dissociation entre le fond et la forme qui faisait que ses formes très ampoulées et très sophistiquées collaient pas à ses sujets. Bref, je trouvais du coup que ça paraissait prétentieux, etc. Là, je trouve qu'il y a une adéquation assez magnifique entre le fond et la forme.
Tu trouves pas ça ampoulé, celui-là?
Eh bien, il est plus fantaisiste et plus excentrique qu'Ampoulé. Il est plus puissant et plus fastueux qu'Ampoulé. Et je trouve que ça colle à cette cour qui est à la fois, cette cour du début 18e, qui est à la fois fastueuse, elle aussi engoncée dans des apparats incroyables, et en même temps d'une férocité, d'une sauvagerie incroyable. Et surtout, ça repose sur des intrigues de cour pour aller vite, mais ces intrigues de cour, elles sont quand même intéressantes et complexes parce que ce sont des femmes qui se battent pour leur survie.
Ah, alors, mais le sujet est intéressant, je suis d'accord.
Oui, mais je trouve qu'elles sont servies par cette mise en scène, encore une fois, qui mêle la sauvagerie, la férocité et en même temps une forme d'excentricité. Et je trouve que ces femmes qui paraissent au premier abord épouvantables, bah, comme dirait l'autre, elles ont toute leur raison. Les deux favorites, notamment, qui se battent pour les faveurs de la reine, qui sont dans la survie, et ça donne une force au film qui est quand même très drôle, qui est noir, mais qui est drôle. Enfin, on
drôle.
Y est... Ah oui, il est cru, il est drôle, il est brillant, il est, je trouve que là, oui, il est, c'est un beau film. Ouais.
Jean-Marc.
C'est un film qui réussit l'exploit, alors qu'il ne montre que des personnages extrêmement antipathiques et odieux, d'être encore plus horripilant que ces personnages. C'est-à-dire que il y a vraiment une façon de se régaler.
Je n'osais pas le dire.
Non, moi je trouve que c'est un film vraiment, vraiment très crispant, et je ne supporte pas la manière dont il a l'air de se régaler de la noirceur et de la méchanceté de ces personnages. On a l'impression que le film fait un festin à une espèce comme ça d'appétit très, très
c'est
fort.
C'est pas des personnages
pour
méchants.
L'ignominie.
C'est des personnages qui essaient de s'en sortir. Et ça, il le montre bien.
Cette
le
dimension
film.
Que tu décris de disons qui serait peut-être possiblement féministe, moi je la vois pas du tout, quoi. C'est-à-dire que l'idée que c'est l'histoire d'un empowerment, au contraire, j'ai l'impression que le film se régale à peindre des sorcières très 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 méchantes et que le film est plutôt anti-féministe que féministe.
Je parle pas de féminisme, mais je trouve qu'il rachète ses personnages un peu à la Renoir. Elles ont leur raison, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça.
Et en plus, stylistiquement, moi je trouve ça horrible. C'est-à-dire que l'outrance du film est sa seule carte de visite stylistique, tout filmé au fish eye, c'est-à-dire ces très courtes focales qui donnent le sentiment que tout est arrondi tout le temps, comme si on était dans une boîte à musique, on comprend l'idée, mais c'est tellement asséné pendant tout le film avec une seule idée que c'est épuisant.
Et c'est très pompier. Eric.
C'est un peu l'histoire d'Alexandre Benalla, mais en crinoline. C'est le favori qui se trouve éjecté et remplacé sans doute par quelqu'un d'autre. Faut qu'il aille voir ça, ça va lui expliquer son avenir. Non, c'est un film qui...
Elles n'ont pas de barbe.
Hein. Oui. Elles pourraient, cela dit, par moment, mais... Non, mais le film est très énervant, mais dans le bon sens du terme. C'est un film qui se vautre dans l'abjection. C'est un film très, très optimiste parce qu'il n'y a rien ni personne à sauver dans ce palais. On voit que les luttes de pouvoir, les mots d'auteur, les vacheries, les coups de poignard dans le dos, c'est tout ce que ces gens-là, courtisans ou monarques, passent leur vie à faire. C'est la rencontre un peu du Peter Greenaway de Meurtre dans un jardin anglais, de All About Eve de Mankiewicz. Ça peut être énervant la façon qu'il a de filmer au fisheye par moment, mais c'est un film assez riche, méchant comme une teigne, très très drôle. Hein,
c'est... Ah bah, tu es d'accord, c'est drôle. Hein.
Ah bah, c'est très très marrant.
Non, parce que Jérôme avait l'air de ne pas trouver ça drôle.
Et Olivia Colman
Faut trouver la méchanceté drôle.
Ah bah oui.
Non, mais il y a une crudité quand même, il y a une saveur,
quand
la langue.
Quand on voit cette fille avec des jambes comme ça, énormes de gouttes qui se fait masser.
Alors c'est pas ça qui me fait rire.
Mais bon, ça me fait rire. Elle a autant de lapins dans des cages dans sa chambre que d'enfants qu'elle a perdus.
Mais ça c'est très drôle. Mais, effectivement.
Mais c'est la guerre. On voit ça. Et il y a des courses de canards dans les couloirs. On s'amuse à bombarder un gros bonhomme tout nu à coups d'orange ou de grenade.
Il y a une excentricité quand même.
Il y a une excentricité. Il y a une folie. Et surtout, il y a un pessimisme qui est moi, noir, une noirceur qui me plaît beaucoup.
Michel.
Moi, j'ai jamais vraiment aimé Lanthimos. Ça m'a toujours dégoûté. Il y a une sorte de misanthropie. Il se vautre dans la détestation du genre humain. Et contrairement à des gens comme Wilder ou Kubrick, qui ne sont pas des vrais misanthropes, qui sont des gens en fait très sensibles, mais qui effectivement se défendent par une sorte de satire, chez lui, c'est vraiment de la complaisance. Et d'une certaine façon, bon, que ce soit Canine, que ce soit Lobster, que ce soit la mise à mort du cerf sacré, il a fait son chemin dans les festivals internationaux, il a eu des prix partout, ça plaît beaucoup, c'est très dans l'époque. Alors celui-là est peut-être son film le moins insupportable, parce qu'effectivement, c'est une farce. C'est une farce, par moments, effectivement drôle, mais je n'ai vraiment rien trouvé. Je trouve que il montre que les femmes sont des êtres perfides, comme le disait Jean-Marc.
Les hommes sont encore
les hommes
pires.
Aussi, là, franchement,
les hommes n'existent pas dans le film.
Comment ça,
film sur des femmes, arrêtez. C'est
trois femmes.
Sur les canards aussi.
C'est trois femmes lesbiennes.
Sur les nuits de noces aussi.
Mais c'est vrai que, comme disait Jean-Marc, le style, c'est des contre-plongées, c'est des grands angulaires. C'est complètement trafiqué. Et je veux bien la référence à Meurtre dans un jardin anglais. La grande différence, c'est que Greenaway est d'une intelligence suprême. C'était un jeu d'une intelligence extraordinaire. Le Meurtre dans un jardin anglais ici, il n'y a pas d'intelligence particulière. Il y a un certain savoir-faire que moi, je déteste. Si c'est vraiment ça, le grand cinéma, c'est pas pour moi.
La favorite de Yorgos Lanthimos. Oui, une réaction dans le public. Le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Ce film, évidemment, c'est pas Greenaway et c'est pas Stanley Kubrick, c'est pas Barry Lyndon, rien à voir. mais ce film a quand même en deuxième plan un intérêt qui n'est pas négligeable, c'est qu'il montre, et on est au début du XVIIIe siècle, c'est la dernière Stuart, la montée du parlementarisme en Angleterre. C'est-à-dire comment se constituent les gouvernements, c'est-à-dire cette constitution qui dure encore maintenant et qui est non écrite au surplus. Et on voit ça. Et pour, rien que pour ça, le film est à voir. Mais c'est pas un chef-d'œuvre.
Tout ça pour finir par le Brexit, avouez quand même. C'est un peu
et ben voilà. Ah. Et ben voilà. Et effectivement, on comprend le Brexit. Un grand historien, Marc Bloch, a dit se pencher pour, sur le présent pour mieux comprendre le passé. Et je crois qu'il faut voir ce film pour comprendre le Brexit.
La
tout est dedans.
De Lanthimos. Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi, avec Valeria Bruni-Tedeschi, sa mère, Marisa Borini, Pierre Arditi, Noémie Lvovsky, il y a beaucoup de « i hein. », Yolande Moreau, Laurence Stocker, Bruno Raffaelli, ça commence dans un bar parisien, avant d'aller présenter, avec son producteur, qui est Xavier Beauvois, un projet au CNC, la cinéaste Anna, c'est Valeria, donc, est larguée par son amant comédien, c'est Riccardo Scarmacchio, qui est la version italienne de son ex Louis Garrel. Pour s'en remettre, eh bien, elle part, et puis aussi pour finir son film et l'écrire, elle part pour la belle propriété familiale sur la Côte d'Azur, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Cap Nègre. Et là, elle met en scène, comme dans une pièce de Tchekhov, ses proches, donc il y a ceux qui ont disparu, comme son frère Virginio, qui est mort du sida en 2006, sa propre mère, donc elle est là, le beau-frère, Jean, qui est joué par Pierre Arditi, petit patron très sarkozyste, Noémie Lvovsky, la co-scénariste de ce film qu'essaie d'écrire Anna et aussi de celui que nous voyons, et puis des acteurs du français, Laurence Stocker, Bruno Raffaelli, ou encore Les Domestiques menés par Yolande Moreau. Éric.
Ouais, moi, j'aime pas beaucoup ça, oui, parce qu'on ne sait pas si elle a voulu faire un film choral à la Pascal Thomas ou s'offrir une psychanalyse aux frais de la production. Et dans les deux cas, c'est raté. C'est, alors que
pour
c'est,
toi.
Oui, pour moi. Alors que j'aimais beaucoup ces précédents films, mais là, tout ce qui était touchant, original, est devenu horripilant et complètement narcissique, parce que je ne sais pas quel âge elle a, Valeria Bruni.
Non.
C'est une fille qui
n'a
rien.
Fais ce que tu veux, mais pas ça.
Elle est plus jeune que toi, en
oui,
tout cas.
Oui, ben j'espère pour elle. C'est une fille qui n'a
et
rien.
Plus, et plus séduisante. Et
qui n'a rien. Je sais pas.
Non, mais que toi. Que toi.
Non, mais on voit qu'elle n'a rien appris de la vie. C'est toujours une adolescente qui réagit comme une étudiante avec ses petites histoires de fiancés, alors qu'elle devrait savoir ce que c'est qu'une famille, ce que c'est que l'âge, ce que c'est qu'une maison. La maison qui devrait être le personnage principal, là, cette sublime villa. On la voit à peine, c'est très mal foutu, on ne sait pas comment sont les pièces, où dorment les uns et les autres. Non, c'est raté ça aussi. Il y a le pauvre Pierre Arditi qui joue comme Christian Clavier parce qu'il est censé être un horrible patron. Et d'ailleurs, dès qu'on lui dit « passe-moi le sel », il dit « tu me dis ça parce que je suis de droite, sans arrêt ». Il y a un personnage qui est magnifique.
Non, c'est pas ça, il demande si elle est de gauche, en revanche. Il demande si elle est de gauche, Anna Milowski.
Oui, mais à cause de ça. Elle lui explique, hélas, pourquoi elle est de gauche à un moment donné, ce dont on se serait passé. Et tout est comme ça. Les gens, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a des domestiques qui sont là en train de se plaindre parce qu'on ne leur paye pas les heures sup, mais tout ça n'est pas grave.
C'est clair.
Oui, mais non, mais ça ne s'emboîte pas du tout. Ce n'est pas du tout un film à la Affreux, Sales et Méchants. Il y a un personnage dont on se demande ce qu'il fait là, mais qui est magnifique, qui est joué par un comédien français dont j'ai oublié
le nom. C'est Bruno
Raffaelli. Un embonpoint assez gracieux qui danse et qui chante.
Et
qui en a tellement marre qu'il a envie d'aller se noyer à un moment donné, et on le comprend. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire en 2019. Le fantôme du frère qui revient dans la propriété et qui tombe sur l'acteur qui va jouer son rôle dans le prochain film, c'est pas possible, ça. D'ailleurs, c'est Vincent Pérez qui déguerpit tout de suite quand il voit le fantôme, et on le comprend. Non, le film est assez gênant. Ça se voudrait être très russe, très Tchekhov, côté les deux sœurs. Il y a un côté marrant, c'est que la sœur, elle boit tout le temps. On se met à sa place, d'ailleurs, parce qu'avec ce qui se passe dans cette maison, c'est vraiment Villa Triste, si ça avait dû s'appeler comme ça. Et moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir fait jouer, que la mère joue son propre rôle, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait, mais que la petite fille de Valeria Bruni joue sa fille au milieu de toutes ces histoires.
Il y a sa mère aussi.
Oui, mais la mère, elle a 70 ans, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande.
Elle n'a pas 70 ans et c'est... Oh là là.
Voilà.
Sophie.
Mais moi non plus.
Bon, alors moi, je vais poursuivre en cavalier seul, peut-être. Mais là, je suis mais complètement à l'opposé de tout ce que tu as dit.
Ah.
À l'opposé. Parce que, franchement, tu peux tout dire de ce film, sauf que on le comprend. Parce que, justement, il y a de la dérision, il y a beaucoup d'humour dans le film. C'est un génie de la comédie.
Absolument.
Valeria Bruni-Tedeschi. Il y a une scène où elle est sur le quai de gare, où avec son corps, avec presque pas de mots, avec juste une situation et le corps qu'elle contorsionne, elle fait un numéro irrésistible.
Mais tout ne peut pas être raté. Mais...
Bon, il y a quand même des choses extraordinaires. Vraiment, c'est génial. familiale. Après, non, elle arrive. C'est un film qui a beaucoup de mélancolie, évidemment, parce que elle, c'est un film sur la vie. Et de cette vie-là, dont tu dis qu'on ne la voit pas, on la voit sans arrêt. Mais c'est une villa. C'est ça qui est beau, c'est un dédale et à la fois c'est un promontoire sur le dessus du vide, c'est une scène de théâtre cette maison, et passe une humanité qui est multiple, qui est composite, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des valets, il y a des valets, des serviteurs et des maîtres, il y a des morts et des vivants, et c'est ça qui est beau. Et elle tire le fil entre tous ces gens et avec nous. Ce film, ça pourrait s'appeler Nos vies. Moi, je le trouve
non, merci.
Vraiment.
Et l'image,
bah oui, ta
et
vie, plus, elle est comme ça aussi, tu vois.
Et en
oui.
plus, l'image est belle, je trouve.
Mais c'est magnifique. Ah oui, c'est vraiment vrai. Un
et la
film.
Fin, et la fin, avec la brume, dans les dernières scènes, et, c'est
bah
c'est
oui, parce que c'est mise en abîme classique, mais oui, je trouve que l'ensemble était extrêmement homogène, alors que le film est composite. Il y a 21 ou 22 personnages, et elle arrive à en faire un théâtre qui est vraiment à taille humaine et qui, moi, m'a paru d'une mélancolie et d'une drôlerie irrésistible.
Y compris dans la manière dont... Pierre Arditi incarne un rôle.
Oui, il est très drôle. Les acteurs
impossible.
Sont tous formidables.
Alors, Michel.
Oui, moi j'ai toujours aimé son cinéma. Alors, c'est vrai que ce film-là est un peu limite. Et
mais
d'ailleurs, la séquence.
Il est mieux.
Je vais m'expliquer. Il y a une séquence d'ouverture qui est très drôle. C'est qu'elle va présenter son scénario à la commission d'avance sur recettes du CNC.
C'est ce que j'ai raconté.
Oui, mais les gens lui disent mais c'est pas un peu toujours la même chose avec vous? Est-ce que vous vous répétez, etc. Bon, elle est un peu désarçonnée, elle ne trouve pas d'argent. Et elle va tourner, en fait, dans le midi, Le Château en Italie, qui est son film précédent. Alors, c'est comme le jeu de Valéria Brunetti-Deschi, qui est toujours le sourire dans les larmes. On passe toujours, c'est un peu l'arc-en-ciel. C'est le sourire dans les larmes, elle pleure, elle rit. Oui, je dis que c'est une qualité que je trouve chez elle. Et je trouve qu'il y a dans ce film, comme toujours, une vraie fantaisie. C'est entre Goldoni, entre la villégiatura et puis Tchekhov, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que les Italiens et les Russes ont beaucoup de points communs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc j'ai pris du plaisir au film. Par moment, j'étais au bord de l'auto-citation, c'est-à-dire de quelqu'un qui, effectivement, en est à son quatrième film en une vingtaine d'années et qui retourne encore les mêmes éléments.
Oui, mais comme la mise en abîme est perpétuelle, on l'accepte très bien.
Oui, non, mais moi, j'ai trouvé le film... J'ai regretté, par exemple, dans Positif, qu'on a fait une notule, à mon avis, trop sévère, parce que le film a plein de qualités. Il y a une mélancolie, il y a une grâce... Il y a des plans très oniriques, etc. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Yolande Moreau, par exemple, est extraordinaire dans un rôle de servante qui est étonnant.
Oui, enfin, tout le monde est servante.
Ce que j'aime dans ce film, c'est justement ce qui est rare dans le cinéma français, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on est toujours entre les rires et les larmes.
Alors, Jean-Marc.
Oui, moi aussi, je suis un peu partagé. À la fois, ça a toujours du charme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est presque trop en place, qu'elle maîtrise très très bien sa petite musique, faite de variations, de contrastes, mais qu'elle devient un tout petit peu mécanique. Et pour moi, elle opère par moments, je trouve qu'il y a vraiment des scènes parfois très drôles ou même assez émouvantes. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si elle jouait à être elle-même, qu'elle s'imitait elle-même, qu'il y a quelque chose qui est au bord de se figer dans la maîtrise qu'elle a de son petit art.
Les Estivants de Valéria Bruni-Tedeschi. Pas de réaction sur ce film. La dernière folie de Claire Darling, le troisième film de fiction de la documentariste Julie Bertuccelli, qui est co-scénarisé par Sophie Fillière et qui réunit une Catherine Deneuve aux cheveux blancs, je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis quelque temps, et sa fille Chiara Mastroianni dans une très belle maison de l'Oise. Claire Darling, c'est donc Deneuve qui se réveille un matin avec la conviction qu'elle va vivre sa dernière journée, et avant de disparaître, elle fait donc le ménage dans ses souvenirs et se débarrasse de tous ses meubles, tous ses objets de valeur qu'elle décide de brader sur sa pelouse, à la manière d'un vide-grenier où se pressent, évidemment, tous ravis de l'aubaine, les villageois. On prévient quand même la fille, Marie. C'est donc Chiara Mastroianni qui débarque en urgence et qui retrouve une mère qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans et qui perd complètement la boule. Mise en place du film assez touchante, je trouve. C'est après, jusqu'à un épilogue qu'on ne racontera pas, que ça se gâte, selon moi, où tout est surligné avec des digressions oniriques que je n'avais pas vues depuis certains films lointains d'Albi Coco. Sophie.
C'est assez raté. Je trouve que Julie Bertuccelli, elle est très bonne en doc, et dès qu'elle touche à la fiction, ben ça va pas. C'est curieux. Elle arrive à filmer le réel et elle arrive pas à la fiction. C'est un film. Je sais pas si tu l'as dit, qui est adapté d'un roman.
Oui, d'un roman de. Non, j'ai pas dit de Linda Rutledge.
Voilà, et en dépit du fait qu'il y avait une matière préexistante, je trouve qu'elle elle rate tout. Enfin, et en plus, je ne sais pas très bien d'où ça vient, parce qu'il y a beaucoup de maladresses dans le film. Oui, il y a des maladresses.
Parce que c'est ça monte vers le grotesque, et c'est vrai, quoi, en gros.
Les allers-retours, oui, mais il y a aussi les allers-retours qui sont un peu pesants, et en même temps, il y a d'autres films où parfois ça marche. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, forcément, de faire jouer Alice Taglioni, Catherine Deneuve, jeune. Le fait qu'il y ait Chiara Mastroianni, ça aurait pu être
Samir
pas mal.
Samir Ghesmi, qu'on aime beaucoup en gendarme, c'est ridicule.
C'est ridicule. Lorca Lamy, qu'on aime aussi beaucoup, je trouve qu'elle n'est pas très bien là. Il y a plein de choses qui ne vont pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de poser un diagnostic pour dire pourquoi ça ne marche pas à ce point. Parce que finalement, elle essaie de faire ce que fait aussi Valérie Brunet-Tedeschi, elle essaie de parler de la vie qui se décante, de la fuite du temps, des émotions enfouies, du passé, tout ce qui fait la vie dans ce que ça a de plus ténu, de plus invisible, de plus indicible, etc. Dieu sait que c'est difficile à faire, mais ça ne marche pas du tout. On a l'impression que peut-être que c'est que les intentions sont transparentes. Je ne sais pas pourquoi, mais le film ne marche pas du tout, du tout.
Michel.
Oui, enfin, il marche pas en particulier à cause des retours en arrière qui sont complètement insignifiants.
Tous les flashbacks,
totalement.
Flashback
onirique. Totalement insignifiants. Alors, je sais pas si la vie imite l'art, mais Catherine Deneuve, si je ne m'abuse, récemment a vendu aux enchères tous ses vêtements de Saint-Laurent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui,
mais pas sur la pelouse, hein.
Non, mais donc
au même prix. Et pas à 10 euros comme dans le film. Hein.
Voilà, mais
c'est 5 euros. Hein.
Comme ça s'est passé après le film, elle a dû trouver son inspiration dans le film avec ce personnage un peu de fofolle qui pense qu'elle vit son dernier jour. Alors, l'idée, la fantaisie est présente, mais elle est très répétitive. Deneuve est vraiment bien. Je trouve qu'une fois de plus, elle fait une performance. Mais le film est très ténu. Enfin, il se répète considérablement.
Éric.
Ah, c'est vraiment vide-grenier. Hein, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est plus vide que grenier, parce que c'est tellement poussiéreux.
Mais c'est ce qu'on appelle chez nous en Normandie une foire à tout.
Ah oui, je sais pas. Ça se passe en Normandie, ça ?
Non.
Mais...
C'est dans l'Oise.
On dirait un vieux téléfilm mal foutu, là. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça, là ? C'est le genre de film où les personnages adultes croisent celui qu'ils étaient enfants dans la rue. Mais elle a pas d'amis, la fille. On devrait lui dire à la fin du repas, bon, tu vas pas le faire, ça, dans ton âge, on va changer. Il y a une scène, là, mais la fausse poésie, l'onirisme, il y a une fête foraine. Alors, dès qu'il y a une fête foraine dans les films et que la nuit commence à tomber, il faut se méfier. On se dit, non, ils vont pas nous la faire. Eh ben, si, on voit Deneuve seul dans l'auto-tamponneuse dans la nuit qui tourne en rond sur la piste. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un feu d'artifice après. Alors, tous les films où il y a un feu d'artifice à la campagne...
Et il n'y a pas qu'un feu d'artifice, il y a un feu tout court.
Ah non, non.
Aïe, aïe,
aïe. Ah oui, tu l'as.
Bon, de toute façon, au point, on en est.
Bon, oui, mais on avait envie de le mettre un peu avant, le feu.
Pierre Murat.
Non, non, c'est un film complètement raté qui ne sert à rien. Et c'est presque gênant, il faut qu'elle fasse un documentaire. Mais Deneuve est très bien en Lady Gaga.
Jean-Marc.
Oui, il y a beaucoup de choses ratées dans le film. Mais je trouve que ce qui est fort est plus fort que tout. Et je trouve qu'elle a quand même une vision géniale, qui est celle de Catherine Deneuve et de ce qu'elle représente dans le cinéma français, de la manière à la fois dont elle est porteuse de tout un patrimoine et dont elle n'a cessé de le mettre à la disposition de
mais
tout le monde.
Mais ça n'a rien à voir avec le
film. C'est à que tout la première demi-heure, je trouve très belle et très émouvante.
Début, oui.
C'est vraiment quelqu'un qui tout à coup offre tout ce qu'elle a accumulé dans sa vie, ce qu'a accumulé Catherine Deneuve, c'est les images les plus fortes du cinéma français. Et voir notre mie nationale à la fois dans un film qui est traversé par l'idée de « elle pourrait disparaître, elle pourrait manquer à jamais au cinéma français » et elle est là et elle me donne tout ce qu'elle a été, je trouve qu'il y a un truc assez poignant et assez bouleversant dans cette vision d'une jeune cinéaste sur un des mythes les plus forts du cinéma français. Après, tout ce qu'elle a mis en scénario de ça, je trouve comme joueur assez maladroit, mais la puissance de cette image-là, je trouve qu'elle rend le film très intéressant.
J'aime bien quand tu es sentimental. Et c'est oui, donc la dernière folie de Claire Darling, c'est Julie Bertuccelli, pas de réaction sur ce film, non ? Une intime conviction, le premier film d'Antoine Rimbaud avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas, un film qui retrace de manière tout à fait fidèle et originale le procès de Jacques Viguier. Je rappelle rapidement les faits. 2000, Jacques Viguier, prof de droit à la fac de Toulouse, est soupçonné d'avoir tué sa femme. Il est jugé en 2009, acquitté. Mais le procureur interjette appel et c'est là qu'entre en jeu pour le deuxième procès le ténor du barreau, Éric Dupont-Moretti, qui est joué par Olivier Gourmet, auquel, et là c'est le seul personnage fictif du film, une jeune cuisinière, Nora, qui est jouée par Marina Foïs, va apporter son soutien et même son aide logistique. Elle est totalement persuadée de l'innocence de Viguier, qui lui est joué par Laurent Lucas. Le film décrit donc à la fois l'enquête, presque à la manière d'un thriller, et bien sûr le procès en appel, avec cette célèbre plaidoirie de Dupont-Moretti sur un dossier devenu un concours l'épine de l'hypothèse, j'adore ça. Et là, cette fois, on peut avec Pierre Murat raconter la fin, puisqu'en mars 2010, Jacques Viguier est à nouveau acquitté. L'occasion de rappeler quand même que les grands avocats sont de grands comédiens. Éric ?
Ah bah ça, c'est très intéressant comme film, là. Au moins, il se passe quelque chose. Et c'est tout ce que ne sait pas faire une émission comme Fait entrer l'accusé, qui est intéressante. Mais là, on voit de l'intérieur ce que c'est qu'un procès, ce que c'est que la défense, ce que c'est qu'un fait divers, la façon dont ça fiche en l'air les vies de tous les gens qui sont concernés. Et ce Viguier est un personnage mystérieux. Laurent Lucas est complètement opaque. Il pourrait très bien avoir tué sa femme ou être accusé à tort. On ne saura jamais.
Il est impénétrable. Hein.
Ah oui, il est très très bon. Et Gourmet en Dupont-Moretti trouve un de ses meilleurs rôles. Il est presque
toujours,
meilleur.
Il est toujours formidable.
Oui, mais là, il est presque meilleur que l'original. Il a une façon de maintenir le souffle, de conserver le silence quand il faut. Et Marina Foïs, qui est le personnage inventé, elle fait peur parce qu'elle a une telle obsession qu'on se dit, mais cette fille est complètement cinglée, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle va décrypter 250 heures d'écoute téléphonique pour aider l'avocat. Non, c'est un film très, très intéressant. C'est le film
Et puis on découvre ce que c'est que cette fameuse article sur l'intime conviction, de manière flagrante.
Et on voit ce que ça doit être d'être juré dans un procès de cette envergure, surtout qu'il avait déjà été acquitté. En appel, il l'est aussi. Mais bizarrement, le mystère demeure un peu, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de cadavre, on ne sait pas qui a tué, si cette fille a disparu. Les enfants sont très très importants dans l'histoire.
Enfin, il n'y a aucune preuve de la culpabilité.
Ouais, aucune.
Aucune, aucune.
Ouais. Et on voit les témoignages. Non, c'est un film très intéressant, très bien fait, le dossier parfait.
Jean-Marc ?
Non, moi je suis assez peu convaincu, j'ai l'impression que le film souffre de dispersion scénaristique, et cette idée intéressante d'adjoindre au récit du procès ce personnage qui va jouer un rôle clé joué par Marina Foïs. J'ai l'impression que les allers-retours de l'un à l'autre font qu'on ne creuse pas assez le personnage de Marina Foïs et cette espèce d'étrange monomanie qu'elle développe par rapport à cette affaire. Du coup, moi, j'ai vraiment un manque d'informations sur ce personnage et je trouve que tout est assez superficiel et le film est quand même très, très terne esthétiquement. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même que ça manque de cinéma, que ça manque de puissance plastique, que le film est très, très terne.
Eh bien, comme quoi les avis sont vraiment très différents, Michel ?
Oui, alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très bon film, c'est un grand film, c'est un très bon film, pour deux raisons. D'abord, il y a le côté philosophique du film, c'est-à-dire c'est ce que Gourmet impose, c'est de faire triompher le doute, c'est-à-dire d'admettre qu'on ne sait pas. Déjà, c'est une réflexion très profonde.
Et qu'il ne faut pas condamner quand on ne sait pas.
Voilà, absolument. Et puis deuxièmement, le côté psychologique, c'est-à-dire le rapport entre ce personnage totalement inventé, qui est celui de Marina Foïs, face à ce professionnel de la plaidoirie et la façon dont cette femme s'obstine. Elle a été jurée dans le premier procès et donc elle est convaincue qu'il n'est pas coupable et elle fait tout pour essayer de le sauver. Et je trouve que les interprétations dans des directions très différentes, Gourmet est dans le style Rému, enfin c'est vraiment le grand acteur et comme tu l'as dit...
Il ne la fait pas trop en même temps, il ne la fait pas trop.
Rému non plus, dans Les Inconnus dans la maison, on dira mais c'est quand même un très grand comédien. Et puis elle, tout en finesse, tout en subtilité, tout en émotion, je trouve que les deux ensemble, ça fait un très bon film.
Et puis il faut savoir que la plaidoirie finale, qui était si belle à la fois en rhétorique, mais aussi, en morale, cette plaidoirie finale est quasiment à l'identique entre le vrai procès et le...
Elle dure 10 minutes au lieu d'une heure.
Et puis elle prend au trip.
C'est poignant parce que fin, comme on a été en alerte pendant tout le temps et qu'on a été très mobilisés pour suivre tout justement parce que le film va très vite, cette fin, brusquement, c'est une sorte de pause comme ça, comme tu l'as dit, philosophique, où c'est pas la vérité qui triomphe, mais c'est la raison, mais c'est la sagesse qui triomphe. Et c'est ça qui est très beau. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les risques qu'il prend. C'est quand même un premier film, donc il est assez bluffant. Il a un cahier des charges qui est dur, parce qu'il faut résumer l'affaire, il ne faut pas trop en dire, il faut aller vite. C'est quand même des écoutes téléphoniques, c'est pas marrant à filmer. Et je trouve qu'avec ce personnage de Nora, il prend des risques assez incroyables. Et il la filme presque comme un fauve. Il y a un moment, elle va très vite, elle a d'une élasticité physique incroyable. Et à un moment
donné.
Je ne
suis pas sûr que j'irai bouffer dans son restaurant. Hein.
Oui, exactement. Mais tu sais, à un moment, il la filme sur le banc, accroupie, avec le regard fixe. Elle a un survêt jaune, on a l'impression que c'est un tigre, qu'elle va bondir. Et entre elle, qui va très vite comme ça, et qui dans la tête aussi va très vite, et lui, qui se définit comme un bourrin, on a un sentiment comme ça que le film est porté comme ça, à la fois par la vitesse et par la lenteur de Dupont-Moretti. Non, franchement, le film est beau, oui, il est...
Très fort, en tout cas. Une intime conviction d'Antoine Rimbaud. Pas de réaction sur ce film. Si, une réaction au Théâtre de l'Alliance Française. Le micro vient vers vous.
Je trouve que le duo d'acteurs est absolument prodigieux. c'est à tomber par terre. Et je pense que Gourmet sera au César l'année prochaine en tant que nommé.
Oui, je pense aussi.
C'est évident. C'est absolument. Et elle est toujours très inquiétante. Rappelez-vous le film qu'elle avait fait avec ce premier metteur en scène où elle a perdu son travail et elle était...
Irréprochable.
Irréprochable.
Elle est très angoissante. Elle est formidable, cette actrice. Voilà.
Merci pour votre témoignage. On n'avait plus de nouvelles de Pascal Thomas depuis... Valentin, c'était il y a 5 ans, et le revoici avec À cause des filles, entouré d'une troupe nombreuse, José Garcia, Marie-Josée Croze, Audrey Fleurot, Louis Daudelanxin, Rossi de Palma, Irène Jacob, Laurent Lucas à nouveau, Pierre Richard, Barbara Schultz, Bernard Ménez, notre François Morel national, et même notre Frédéric Becbédé, puisqu'il joue ici le marié qui après... La cérémonie dans une église du bassin d'Arcachon s'enfuit en décapotable blanche avec une femme mystérieuse. On ignore évidemment s'il reviendra. Et pour remonter le moral de la mariée abandonnée, tous les invités racontent en gobant des huîtres leur expérience de l'amour, ses jeux et son hasard. Film tout à fait à sketch du Thomas pur jus. Jean-Marc ?
Je n'ai pas vu.
Sophie ?
Tu as dit qu'il y avait aussi Eric Neuhoff dans le film ?
Je te laisse le dire.
Oui.
Mais je ne voulais pas gêner le critique qui allait s'exprimer.
Mais moi, j'aime bien le gêner.
Mais elle joue mon rôle.
Oui, oui.
Donc, secondes.
Comment dire ? Moi, Pascal Thomas, on l'aime, je crois, tous beaucoup ici. Moi, je l'adore. Je trouve que c'est un très grand cinéaste. Je trouve qu'il a fait des merveilles de poésie. Je trouve que Mercredi feu de journée, par exemple, c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu sur les rapports entre un père et sa fille. Je trouve que celui-là n'est pas à la hauteur du reste. Je trouve qu'il a des boulons à resserrer, des vis à retourner, enfin je ne sais pas comment on dit. Pour moi, il n'est pas fini ce film et il n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait. Et ce n'est pas grave, il en fera d'autres qui seront très beaux aussi, mais je ne peux pas dire que le film est réussi.
Michel ?
Si, moi je pense que c'est un film qui est meilleur que plusieurs films de Pascal Thomas. Ce n'est peut-être pas son meilleur, mais en tout cas, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est un film, une sorte de film à sketch, où toutes les générations sont présentes. C'est un film d'assez grande ampleur, avec toutes sortes de personnages de toutes les générations. Il y a un côté crépusculaire, un côté nostalgique aussi. Alors, j'ai vu une méchante critique disant « c'est un film désuet ». Mais Pascal Thomas a toujours été désuet, c'est ça sa grandeur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas de son époque, qui a toujours été nostalgique d'autres. Mais si, les Ozos, quand les Ozos sont sortis, son premier film, c'était pas du tout le cinéma qu'on faisait à l'époque. C'était pas du tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est volontairement, qui est pour un art de vivre qui est en train de disparaître. Et il a une sorte de nostalgie de cet art de vivre. Et je trouve que les comédiens, une multitude de comédiens, et je pense que ça nous change justement des Ch'tis, des Tuches, de tous ces films-là.
Oh bah c'est pas la même.
Mais si, parce que c'est les autres qui ont le succès populaire, alors que c'est des films oui, complètement misanthropes, qui n'aiment pas les gens, qui n'aiment pas le cinéma. Et là, on a un homme qui aime le cinéma, qui aime ses personnages. Malheureusement, il n'y a pas autant de monde, loin de là, qui va voir son film. Je trouve ça épouvantable sur notre époque.
Eric, qu'est-ce que tu peux en parler de ce film ?
Ah oui, oui. Il y a un moment un peu faible, c'est quand je dis une phrase, c'est tout.
C'est vrai.
Mais non, mais c'est ce qui sait faire de mieux.
Mais attends, mais tu joues dedans et tu vas t'exprimer sur ce film ?
Ça va pas me gêner une seconde. Tu me connais ? Non, non, mais c'est ce qui sait faire de mieux. Ça, c'est Léoto qui disait « je n'aime que la conversation écrite ». Et Pascal Thomas, c'est pareil avec le cinéma. Lui, il n'aime que la conversation filmée. Ce sont des gens qui parlent, qui racontent des histoires. C'est le film « Marabout, bout de ficelle ». C'est un film, un petit précis de civilisation. C'est complètement démodé, mais volontairement, parce que la mode, c'est tout ce que déteste Pascal Thomas. Michel a raison, quand Les Ozos est sorti en 72 ou 73, les films sur les adolescents, ça n'existait pas. C'est lui qui a lancé cette mode. Et c'était totalement à côté de la plaque. Il fallait voir ce qui sortait dans ces années-là, côté français. Et il invente quelque chose, il adore les acteurs, c'est un cinéaste cultivé, ce qui est assez rare, et même littéraire, ce qui l'est encore plus. Dans tous les appartements qu'il filme, il y a des livres absolument partout, ça c'est magnifique. Et il nous montre que la bourgeoisie est une bien belle chose, que c'est le truc le plus romanesque qui soit à filmer. Et ça, c'est assez revigorant de voir des messes en latin, des mariages en blanc, des amants, des maris, des femmes. Et ça, c'est ce qui fait le sel de la vie et le bonheur du cinéma.
Merci Eric Neuhoff du Figaro.
Mais tout ça, je le dis pas dans le film.
À cause des filles, Pascal Thomas. Allez, rapidement, on termine avec Bell Street. Pouvait parler un mélo de Barry Jenkins, le réalisateur oscarisé de Moonlight. Et là, c'est l'adaptation du roman, d'ailleurs pas son meilleur, de James Baldwin, une histoire d'amour qui vire au drame.
puisque à Harlem, au début des années 70, Tisch est enceinte de Fonny, un jeune sculpteur. Ils ont décidé de se marier et Fonny, qui est accusé de viol sur une portoricaine, est jeté en prison. Et Tisch et sa famille vont alors se battre pour faire innocenter l'homme qu'elle aime, pour dénoncer ce cas flagrant d'injustice raciale. C'est assez démonstratif et en même temps très esthétisant. Je vous demande assez rapidement de me dire ce que vous en pensez. Jean-Marc.
Moi, j'aurais aimé l'aimer davantage. C'est quand même, je trouve, une déception après Moonlight, qui était un film très abouti. Là, il y a un hiatus, disons, entre le sujet et la forme, qui aurait pu être très intéressant. Une forme presque à la Wong Kar-wai ou à la Mad Men, une direction artistique très chic, sur un sujet social qui aurait pu entraîner un traitement naturaliste. L'idée est forte, mais je trouve que le film s'enferre dans son propre maniérisme et quelque chose de truqué, de poseur, au bout du compte, même si dans le détail, il y a quand même toujours quelque chose d'assez sensible dans sa direction d'acteur et dans la manière dont il regarde les personnages, qui fait que le film est quand même attachant et intéressant, mais j'ai été vraiment déçu.
Éric.
Jean-Marc a raison, il y a une telle dichotomie entre le fond et la forme, c'est aberrant, c'est un film mielleux, c'est comme si David Hamilton avait voulu tourner une histoire de Preminger, là, ça ne va pas du tout, c'est joli comme tout, mais d'une joliesse déplacée sur un fait divers qui devrait être tragique. La voix off susurrante de la narratrice est insupportable. La première nuit d'amour, mais si Lelouch avait filmé ça, il se serait fait traîner dans la boue. Non, le film est
alors
assez lamentable.
Alors que Moonlight était effectivement
pas mal, enfin, si, moins bien. Mauvais. Non, mais là, il y a deux scènes à sauver. C'est celle dans, parce que là, elle est vendeuse dans un rayon parfumerie d'un grand magasin. Il y a une scène très, très révélatrice et excellente. Et puis, comme d'habitude, le metteur en scène commet l'erreur de mettre des images d'archives en noir et blanc. Et c'est beaucoup plus fort que tout ce qui est en couleur autour.
Michel.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit un film parfait, mais je pense pas du tout non plus que ce soit un mauvais film. C'est-à-dire qu'en fait, Baldwin et Barry Jenkins, ils abordent le problème des Noirs par l'intimisme et par l'amour fou. C'est une histoire d'amour fou entre ces deux Noirs qui, leur amour passionnel leur permet de lutter, malheureusement pas jusqu'au bout, ils n'arrivent pas à gagner, bien sûr, parce qu'ils sont noirs dans une société raciste, mais qui leur permet de lutter contre, justement, cette société des Blancs, contre ces policiers, contre ces juges, qui sont décidés à les détruire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui passe très bien. Et j'ai pas été gêné, comme vous, par, je le reconnais, une influence Wong Kar-wai, une influence esthétique. Ça ne suffit pas à me faire...
Mais c'est surtout qu'on a l'impression que c'est un vrai drame social.
Oui, mais je le ressens.
Oui, mais il en fait un mélo. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais moi j'adore les mélos, donc c'est peut-être pour ça que j'ai aimé le film.
Là, j'ai rien à ajouter. Sophie.
Moi, j'adore les mélos, mais là, j'aime pas le film parce que je trouve que, pour le coup, c'est pas mélo, c'est maniéré. Enfin, c'est ce qu'a dit Jean-Marc, mais c'est vrai que c'est un film qui est très enluminé. Il peut pas le filmer en absence de voir des gloires picturales. Enfin, il y a une espèce d'enluminure permanente, presque religiosité dans sa façon de montrer cet amour. En effet, c'est une histoire magnifique. En effet, c'est une histoire d'amour. Mais il veut tellement la montrer de manière angélique, de la monter dans cette lumière de gloire que ça en est d'un maniéré insupportable. Et je trouve qu'en plus, le jeu des acteurs qui a l'air ralenti
que
intentionnellement.
Je l'ai pas cité, je le fais vite, oui, c'est Killian, Stephen James et Regina King.
Et je trouve qu'ils sont ralentis dans leur jeu, et du coup, comme si on leur avait dit, surtout allez lentement, regardez-vous. Et du coup, tout ça devient très surfait et très maniéré. Et je trouve que c'est pas réussi.
Eh bien, c'est Bill Street pouvait parler de Barry Jenkins. Pas de réaction sur ce film, j'imagine. Eh bien, on a tout à fait le temps de conseiller des films, des DVD. On va commencer avec Sophie, tiens.
Alors, deux films très vite, dont tant d'ailleurs qu'on partage pour une fois n'est pas coutume avec Eric Neuhoff ici présent, et aussi dans le film de Pascal Thomas. Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui est une comédie de Judith Davis, tout à fait charmante, pleine de vivacité, de dérision, qui tient un regard sur l'époque avec beaucoup d'humour. C'est elle qui joue le rôle principal. Elle a fait de la philo, puis elle a fait du théâtre. Et elle a fait un spectacle qui s'appelait « Tout ce qui me reste de la Révolution, c'est Simon ». Et de ce spectacle de théâtre, elle a tiré une sorte de prolongation qui est ce film qui est tout à fait charmant et vraiment très chouette, avec des acteurs, des seconds rôles qui sont formidables. Et le deuxième film qui est Nuestro Tiempo de Carlos Regadas. Ah oui. Alors, je ne sais pas ce que va en dire Eric, mais c'est un film qui dure 3 heures, donc il faut quand même prévenir les gens qu'il est long. Et c'est, ça se passe au Mexique, dans une hacienda. Et Carlos Reganeas, qui joue également le premier rôle, filme un adultère dans cette hacienda qui élève des taureaux sauvages. Et filme les bêtes et
pas
les hommes.
Pas d'adultère entre les taureaux.
Non, entre les hommes et les femmes.
Entre les hommes et les femmes.
Oui, entre ce couple. Enfin, ce couple, voilà. Et, mais il fait un parallèle quand même à regarder vivre les bêtes et vivre les hommes. Il y a un parallèle qui est d'ailleurs un peu appuyé, mais le film est quand même très beau.
Il y a des chevaux dedans, non?
Oui, bien sûr qu'il y a des chevaux. D'accord. Ouais, c'est pour toi, Jérôme.
Michel.
Alors, c'est un film que Pierre Murat avait annoncé. Il n'était pas encore sorti. Il est sorti. Pour moi, c'est un des grands films de ce début d'année. C'est un film chinois de Bigan qui s'appelle Un grand voyage vers la nuit.
Qui est un long film, je crois, aussi.
Un film de 2h20, mais qui succède à un film sublime de 4 heures qui s'appelle An Elephant Sitting Still, également chinois. Et on verra bientôt Les Éternels de Jia Zhangke, autre film chinois. Donc c'est une présence extraordinaire du cinéma chinois. Alors c'est un film très lyrique, c'est un film noir, en fait, un film qui ressemble à un film criminel, d'un homme qui est amoureux éperdument d'une femme et qu'il recherche. Il l'a aimée follement, il essaye de la retrouver. Et puis ensuite, au bout de 3 quarts d'heure, il s'assoit dans un cinéma et les spectateurs sont priés de prendre des lunettes. Et la deuxième partie du film, c'est en 3D. Et ça devient un plan séquence.
Donc il ne faut pas les oublier, là.
Non. C'est un plan séquence de 45 minutes, absolument vertigineux. Et c'est un des plus beaux films que j'ai vus sur la mémoire.
Mon conseil, ça s'appelle Un coup de maître de l'Argentin Gaston Duprat, à qui on doit ce film formidable qui était Citoyen d'honneur. Et là, il n'y a plus de prix Nobel de littérature, mais l'étrange amitié entre un vieux peintre totalement loufoque, tendance à nard, et un galeriste chic de Buenos Aires. Et je vous dis pas ce que va imaginer ce dernier pour faire remonter la cote du peintre. C'est à la fois drôle, évidemment, et très noir. Et puis c'est surtout sur le thème de l'imposture en art. Avec Guillermo Franchella et Luis Brandoni, c'est un coup de maître. Le conseil d'Éric.
Je réitère le conseil de Sophie, Nuestro Tiempo de Carlos Reganeas, le moins connu des réalisateurs mexicains, mais il faudrait que ça cesse un peu. C'est vraiment 3 heures qui se méritent, mais on sort de là ébloui. C'est lent, contemplatif, intelligent, c'est beau. Cette histoire d'un couple moderne, entre guillemets, où le mari dit à la femme « tu peux faire ce que tu veux », et le jour où elle se tape le dresseur de chevaux américain, il s'aperçoit que...
Ah, elle se tape quand même le dresseur de
chevaux. Ah bah
oui. Alors, il faut faire attention au dresseur de chevaux.
Et tout ça est très très fin, tout un tas de regards, et il y a une scène que tu ne supporteras pas, parce qu'à un moment donné, il y a un taureau qui éventre un cheval.
Ah bah ça, je n'irai pas.
Ah bah ça y est. Tous les prétextes sont bons pour éviter un film mexicain de 3 heures, mais si vous n'êtes pas Jérôme Garcin, allez-y, parce que un cheval a dû être maltraité pendant le film, mais le spectateur, lui, ne l'est pas.
Le conseil de Jean-Marc.
D'abord, je m'associe à Michel pour le film de Bigan, que moi aussi je trouve absolument magnifique. Mais mon conseil, c'est le film d'un jeune cinéaste afro-américain qui s'appelle Boots Riley, et dont le film s'appelle Sorry to Bother You. C'est un ancien rappeur, Boots Riley, et il y a quelque chose dans son énergie qui rappelle un peu le Spike Lee des tout débuts, celui de Do the Right Thing, voilà. Oui. Donc c'est un film très militant, très politisé, mais avec une fantaisie supérieure à celle de Spike Lee. C'est une sorte de farce autour de l'ascension sociale d'un jeune homme qui fait du télémarketing et qui va devenir un des maîtres du monde. Alors, pour toi, Jérôme, il y a des hommes transformés en chevaux, qui sont une sorte de métaphore de l'exploitation de l'homme par l'homme. On inocule de quoi transformer les hommes en chevaux pour qu'ils soient plus performants. C'est un film assez fou et d'une très très grande drôlerie.
J'ai plein de films à voir ce soir. Merci pour ces conseils que vous retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr, merci beaucoup Sophie Avon, Michel Simon, Éric Neuf et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique au Théâtre de l'Alliance Française. Ce soir il y avait, et je les remercie, Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Inès De Bruyne. La réalisation était de Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu ici même au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Ça sera le jeudi 21 février pour 2 émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, attention, on remet en public le 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.